Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors aujourd'hui, dans ce débat, nous parlerons d'un certain nombre d'événements qui expliqueraient le déclin important de la politique étrangère française. Alors c'est vrai que la France n'a plus les épaules ni l'envergure pour rattraper le temps perdu. Les échecs s'accumulent et les menaces et les provocations n'ont plus d'effet sur les autres pays. Même on peut parler de la fin de la France-Afrique. Voilà. Alors comment il faut comprendre ce déclin important? Quelles étaient les décisions irréfléchies et immatures par les responsables français qui expliqueraient justement ce déclin? Nous allons voir tout à l'heure avec des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure et qui vont faire vivre le débat d'aujourd'hui juste après ce reportage. Vous restez avec nous, je vous prie.
Crise avec la Grande-Bretagne sur fond de Brexit. Crise avec les États-Unis d'Amérique suite au torpillage du contrat des sous-marins. Crise avec l'Australie. Crise sourde avec la Suisse. Crise diplomatique bruyante avec l'Algérie suite aux propos de Macron niant l'existence de cette dernière avant 1830. Crise avec l'Italie sur le dossier libyen. Crise bruyante avec le Mali sur fond d'échec de l'opération Barkhane dans le format actuel. Crise grave avec la Chine suite aux propos belliqueux du ministre Le Drian à l'égard de Pékin. Crise avec la République centrafricaine. Crise avec le Rwanda. Tension avec la Turquie. En l'espace de quelques semaines, la politique étrangère de Paris semble suivre un parcours ayant conduit à des convocations et rappels de plénipotentiaires et des actions de représailles des autres pays. Comme si tout ceci n'est pas suffisant, Emmanuel Macron a trouvé le temps de provoquer une autre crise diplomatique, cette fois avec l'Algérie. Sous prétexte d'un manque de coopération d'Alger dans l'expulsion de personnes faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, Paris décide de déclarer une réduction drastique des visas pour les ressortissants de trois pays d'Afrique du Nord, l'Algérie, Maroc, Tunisie. Alger a immédiatement riposté en convoquant l'ambassadeur de France à Alger la fermeture de son espace aérien et maritime aux aéronefs et navires militaires français. En Afrique, la fin de la France-Afrique est en train de sonner. Les échecs de Paris s'accumulent. Les menaces et le chantage n'ont plus l'effet escompté. Beaucoup de pays d'Afrique se rallient et coupent l'herbe sous le pied de l'empire néocolonialiste.
Voilà pour le reportage. Vous regardez l'émission Le Débat. À présent, j'ai le grand plaisir d'accueillir nos deux experts des questions internationales, en commençant par M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour et merci.
Bonjour à vous, bonjour à mon collègue, je ne sais pas qui c'est ce jour, et bonjour à nos téléspectateurs.
Merci M. Luc Michel, vous allez savoir tout de suite, il s'agit de M. Philippe Hugon, reporter de guerre et expert des questions internationales qui est avec nous depuis Paris. M. Hugon, bonjour.
Oui, bonjour à Luc Michel, bonjour à toute l'équipe et à tous vos téléspectateurs.
Bien, alors merci d'être avec nous, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. M. Hugon, alors ma première question va s'adresser à vous. Alors, est-ce que la France peut tomber encore plus bas, car vraiment, avec, on a vu dans ce reportage cette grande liste importante des échecs essuyés par la France avec des décisions irréfléchies et immatures prises récemment dans sa politique étrangère?
Oh, ben, on peut toujours tomber plus bas, bien que ça va être un petit peu difficile. Il faut dire que depuis l'élection de Macron, je crois que jamais la France avait eu un président aussi minable. Jamais la France avait eu un président qui se transforme petit à petit en dictateur et qui impose un certain nombre de décisions aux Français, mais également un certain nombre de pays dans le monde, ou du moins qui essaye, puisque ça ne marche pas. Donc la France aujourd'hui n'a plus du tout tous les moyens de ses ambitions. Elle est en, la France est en faillite financière. Alors évidemment, si vous mettez un imbécile à la tête d'un pays, hein, souvenez-vous de ce que disait Platon, quand vous mettez un imbécile à la tête d'un pays, vous en faites un tyran. Eh bien, c'est tout à fait ce qui est en train de se passer. Et un tyran qui est non seulement un tyran, mais qui est un incompétent et qui va nous amener dans un mur économique, social, diplomatique, militaire, et c'est un mur très épais, puisque là on va vraiment connaître des années très très difficiles sur un plan, non seulement sur un plan national, mais sur un plan international. Donc il est clair qu'aujourd'hui, avec un tel gouvernement, on ne peut pas avoir d'espoir pour les années qui viennent, tant qu'on aura un État tenu par des gens irresponsables et incompétents.
Merci. Et Monsieur Luc Michel, vous êtes avec nous avec Bruxelles. Alors, est-ce que vous partagez l'avis de Monsieur Hugon d'une part, et est-ce que vous vous attendiez à ce déclin important de la France dans la politique étrangère?
Écoutez, moi je l'annonce depuis une quarantaine d'années, mais je ne suis pas d'accord avec le cadrage de votre sujet, parce que vous reprenez les principes de la propagande française. La France n'est pas du tout en train de liquider la France-Afrique à Montpellier, et la France n'est pas du tout en train d'abandonner ses prétentions mondiales. Il faut une rétrospective géopolitique. La France, c'est au 17e et au 18e siècle, la grande puissance européenne avant l'Allemagne et avant la Russie. Elle échoue à Waterloo en 18 juin 1815. Elle est écrasée par l'impérialisme britannique. Et elle échoue une seconde fois en 1945 lorsque le général de Gaulle est chassé du pouvoir. Depuis, la France, c'est une ancienne grande puissance qui joue à la puissance mondiale. Les rapports, la chute de la France, elle se fait en deux parties à l'époque.
Monsieur Michel, manifestement, nous avons un problème technique avec depuis Bruxelles. Alors, je m'adresse à Monsieur Hugon. Donc, Monsieur Hugon, évidemment, vous vous attendiez à ce déclin.
Ah oui, oh ben je pense que le déclin, il ne date pas d'hier, mais il date depuis la fin des années 70, le début des années 80. Et non seulement c'est un très grand déclin pour la France, mais c'est également un point positif pour les autres pays, puisque ces autres pays évoluent. Immanquablement, ils évoluent vers une politique beaucoup plus responsable, beaucoup plus performante.
Est-ce que vous pouvez citer un certain nombre de pays, Monsieur Hugon?
Oh, ben c'est tous les pays d'Afrique, notamment, où la France a imposé pendant des dizaines d'années une politique, a imposé des gouvernements, a imposé des chefs d'État sans avis consultatif de leur population. Donc, on sait que cette politique-là tient un certain nombre d'années, mais que l'évolution faisant, ces gens-là évoluent, les responsables politiques font de grandes études dans des universités à l'étranger. Le pays tout entier évolue et il est clair qu'on ne peut plus, après, imposer un certain nombre de politiques à ces gens-là. D'ailleurs, on voit bien tous les États colonialistes, hein, comme l'Angleterre, comme l'Espagne, comme ce sont toutes des puissances qui se sont effondrées. Alors, on a cette double peine aujourd'hui, c'est que nous avons en France des responsables politiques qui sont particulièrement irresponsables. En fait, ils s'occupent principalement de leur carrière personnelle et de leur ambition personnelle. Après, les intérêts des uns et des autres et des intérêts nationaux ne rentrent plus vraiment en ligne de compte, ce sont leurs intérêts personnels, puisque ces gens-là sont dévorés par une ambition. Ce sont des gens qui ont un ego démesuré et qui font un petit peu n'importe quoi. Donc il est clair que depuis 40 ans, on a entamé un déclin. Ce déclin ne s'arrêtera pas. Je pense que les puissances colonialistes comme la France ou l'Angleterre, qui représentent encore un peu quelque chose, dans les années qui viennent, ne représenteront plus rien du tout. Et puis il faut bien savoir savoir que toutes les puissances occidentales aujourd'hui sont quasiment en faillite financière pour tous les États européens. Peut-être que l'Allemagne s'en sort un peu mieux pour le moment, mais l'Allemagne est dans une position très difficile également. Donc nous n'avons plus les moyens de nos ambitions. Donc nous allons devoir laisser tomber petit à petit toutes nos ambitions sur ces anciennes colonies, puisque nous n'aurons plus les moyens financiers de pouvoir soutenir des politiques colonialistes, ce qui est d'ailleurs une très bonne chose pour ces pays qui se développeront à leur rythme et en fonction de leur culture et de leurs ambitions politiques. Et je trouve un juste retour des choses de la part de tous ces pays dits sous-développés, hein, parce que c'est pas le cas souvent, mais ça va leur donner la possibilité de se développer à leur échelle, à leur vitesse, et ce qui sera une très bonne chose pour ces pays. Oui, c'est une très bonne chose.
Philippe Hugon, depuis que nous avons le plaisir de vous accueillir dans l'émission Le Débat, je crois que ça fait des années déjà, à chaque fois, vous sonnez l'alarme et vous avertissez les Russes à cet égard. Ça n'a plus d'effet sur les autres pays.
Oh ben c'est clair, hein, parce qu'aujourd'hui on n'a plus que ça, on n'a plus que le fait de parler et de menacer, puisqu'on n'a plus les moyens, que ce soit au niveau financier ou au niveau militaire. Vous voyez bien qu'un militaire français engagé dans l'armée volontairement se fait tuer, ça devient une véritable histoire d'État. Donc on n'a plus les moyens aujourd'hui de pouvoir ingérer dans un grand nombre de pays, ce qui est une très bonne chose, parce que je pense qu'aujourd'hui une majorité de Français sont contre ces politiques menées par nos gouvernements.
Philippe Hugon, oui. Vous parlez des moyens. Quels sont les moyens que vous faites allusion, que la France n'a plus à sa disposition? Est-ce que ce sont les moyens financiers ou bien les moyens militaires?
Oh ben c'est les deux. Et hein, il faut bien savoir qu'en France, la moitié des avions de chasse sont cloués au sol parce qu'on n'a pas les pièces détachées pour faire l'entretien de ces avions, parce qu'on n'a pas les moyens de les acheter, tout simplement. Et puis financièrement, la situation économique de la France est une véritable catastrophe. Donc je vois pas vraiment aujourd'hui comment est-ce que l'on pourrait ingérer dans les affaires d'autrui comme ça, dans des pays qui sont parfois à plusieurs milliers de kilomètres de la France. Je dis bien d'ailleurs pour nous, enfin pour moi, j'estime que c'est une chance, puisque ça va permettre à ces pays d'évoluer à leur vitesse et d'évoluer en fonction de leur culture, en fonction de leurs envies, et sans qu'on ait à imposer une politique menée par un chef d'État qui ne fait que de parler, qui n'a pas les moyens. Et regardez en France les différents chefs d'État qui se sont succédés depuis les années 80, c'est une catastrophe. Chaque année, à chaque élection, on a une baisse de niveau intellectuel des gouvernements qui nous dirigent. Regardez Macron, mais c'est un moins que rien, c'est un minable sur le plan de l'intelligence, un minable sur le plan de l'économie, un minable sur le plan de la politique étrangère. On dirait qu'aujourd'hui, pour être président, il faut passer c'est le plus minable qui arrive à être élu, ce qui est absolument incroyable. Vous pouvez en parler à des professeurs d'université en France, et tous ces gens-là sont atterrés de voir le peu de connaissances, le peu de capacités que nos dirigeants ont actuellement pour régler les problèmes franco-français. Alors quand on parle de la politique internationale, alors là on est à des milliards d'années-lumière de la réalité. Donc ces gens-là sont totalement décalés de toute réalité, sont totalement décalés des réalités politiques, stratégiques des pays dans lesquels on intervient. Non, le monde occidental aujourd'hui est en pleine décadence de toutes ses valeurs. Et aujourd'hui, si nous perdons tout ce que nous avons essayé d'acquérir dans ces pays-là, eh bien c'est justifié, puisqu'on n'a plus rien à faire. Aujourd'hui, on ne peut plus rien apporter à ce genre de pays. Les peu de pays où nous représentons encore quelque chose, qu'est-ce que nous avons amené? La ruine, les guerres civiles, les mises en place de dictateurs. Le monde occidental n'a plus sa place aujourd'hui pour gérer d'une façon décente les problèmes internationaux.
Bien, merci Monsieur Hugon. Restez avec nous, je vous prie. Alors, je m'adresse à Monsieur Luc Michel. Voyez bien, nous excuser, Monsieur Michel, notre contact a été coupé. Alors, est-ce que vous voulez bien poursuivre ce que vous disiez tout à l'heure?
Je ne sais pas jusqu'où vous m'avez entendu.
Alors, vous disiez que depuis 40 ans, vous sonnez l'alarme en disant que la France n'a plus les moyens et ni les épaules pour faire face à ce problème étranger.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'elle a essayé une dernière fois sous De Gaulle de résoudre un problème qui ne date pas de Macron d'ailleurs, ou du général De Gaulle, mais qui date de la défaite de Waterloo. À Waterloo, la France, qui est la grande puissance continentale, elle devient une petite puissance européenne. Et De Gaulle essaye une dernière fois de défendre un rang mondial, et il dit que la féminisation des États-Unis et de la France va se dérouler principalement en Afrique. Tout d'abord, il y a les années de Gaulle où la France essaye encore de contester la domination des anglo-saxons. Les De Gaulle, les frontières sont les rivaux des États-Unis. À partir de Giscard d'Estaing, c'est fini. Giscard d'Estaing, c'est un président pro-américain qui satellise la France aux États-Unis, qui devient le genre de l'Afrique, et il ne va pas s'arrêter sur l'existence. Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron. En 2017, Macron essaie de sauver les mains, se lance ce qu'on appelle la Centrafrique 2.0. Il a l'appui de Donald Trump qui dit que la France est le jardin de l'Afrique, mais pour des raisons économiques, Macron est créé une première fois par Trump soit déficit, et une seconde fois par le pays de 20 ans dans le monde. Mais la France réagit. Elle est telle que ça veut qu'il y ait. Lors du projet de l'Afrique, qui est théorisé par un habitant français, c'est l'amiral Gaulle, qui a décidé de porte-avions Charles de Gaulle, et c'est un des plus grands stratèges français qui utilise aujourd'hui les relations publiques de la marine française. Il a publié l'année passée un livre de manifeste qui s'appelle Amiral, et qui décide de redéployer la technologie de France comme une grande puissance maritime. La France est le deuxième domaine maritime mondial après les États-Unis. Elle a un domaine de 6 000 km², grâce à ce qu'on appelle le concept d'Atlantique, le petit territoire conservé sous prétexte essayant à la fin de la décolonisation de la France. La France, vu qu'elle a encore des ambitions mondiales, on sommet de reprocher ici. Il ne s'agit pas de liquider la France-Afrique, mais de mettre au point cette France-Afrique 2.0. Grâce à une classe de collabos africains qui est combattue radicalement par nous qui sommes les meilleurs panafricanistes, je suis l'un de ses leaders les plus influents. Une dernière chose, samedi, est sorti un livre France aux éditions Fayard, qui a un titre significatif. Il a dit que l'ambiance qui n'est pas mourir, et pour 1000 pages, il est consacré au malheur et aux aléas à la chute de la France-Afrique. L'objectif ne voulait pas mourir. Ça résulte de France de Macron qui espère encore jouer un rôle mondial, alors que même ce conflit avec l'Ukraine ne peut plus être.
Oui. Monsieur Philippe Hugon, alors j'espère que vous avez pu entendre. Le son n'est pas très très bon depuis Bruxelles. Alors, Monsieur Hugon, avec la position de la France très affaiblie depuis très longtemps dans la scène internationale sur la politique étrangère, est-ce que ça ne va pas profiter aux autres pays comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne ou d'autres pays de prendre le dessus? Car déjà, la fin de la France-Afrique a sonné. Que pensez-vous?
Oui, bah ça c'est sûr que c'est la fin de la France-Afrique. Maintenant, que ce soit l'Angleterre et les États-Unis, je n'y crois pas beaucoup. D'abord, l'Angleterre est dans une position financière, économique et sociale catastrophique. En ce qui concerne les États-Unis, c'est autre chose, mais eux ne peuvent s'imposer que par la force. Donc à terme, c'est quelque chose qui ne peut pas durer dans le temps. Moi, je pense qu'il y aura dans les années qui viennent des puissances économiques comme la Chine, l'Inde, par exemple, qui se développent actuellement un peu de partout en Afrique, notamment dans la zone Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, et qui ont, je dirais, si sur un plan économique, ce sont des gens très durs, mais qui restent malgré tout conscients des réalités, et ce qui n'est pas le cas du monde occidental, donc ils prennent maintenant en mesure l'évolution des pays dans lesquels ils interviennent et adaptent leur politique en fonction de ces pays. Donc ils ont une politique, je dirais pas plus juste, parce que les puissances colonialistes, quelles qu'elles soient, ne sont jamais très justes, mais ce sont des gens qui savent s'adapter aux situations différentes en fonction des pays. Donc ils ont un recul politique que nous n'avons pas, et ils prennent le temps de faire les choses, même s'ils sont très très réactifs dans leurs décisions économiques, mais ils prennent le temps quand même d'écouter un petit peu les desiderata des gouvernements de ces pays, ce qui leur donne un énorme avantage par rapport à nous, qui nous sommes imposés régulièrement par la force, régulièrement par du chantage, régulièrement par des pressions de toutes sortes, hein, pressions diplomatiques, etc. Donc, ils ont quand même un très gros avantage par rapport à nous. Je pense qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus capables, nous, monde occidental, et particulièrement en Europe, de pouvoir assumer ce développement. Nous sommes en train de devenir des puissances mineures. D'ailleurs, tout le montre aujourd'hui dans notre développement économique, dans notre développement social. Alors évidemment, on a plus grand chose à faire à l'extérieur, puisque nous n'avons ni les moyens financiers, ni les moyens militaires, ni les moyens de pression de toutes sortes. Donc je pense que on va avoir à faire dans les années qui viennent un véritable effondrement des puissances telles que la France, qui ne pourront plus du tout ingérer et n'auront plus les moyens de leurs ambitions. Ce qui, je le répète, est une très bonne chose pour ces pays qui pourront enfin se développer à leur rythme.
Luc Michel, est-ce que vous voulez bien réagir, je vous prie?
Moi, je ne partage absolument pas cette analyse. Mon ami, M. Lucon, parce que nos relations sont amicales, je suis désolé de vous dire, mais sous-estime l'impérialisme américain et anglo-saxon, et il sous-estime la position de l'Europe. Qu'est-ce que c'est l'Europe occidentale aujourd'hui? Depuis le 6 juin 1944, c'est la principale colonie des États-Unis. C'est la possession de la colonie ouest-européenne qui permet aux États-Unis d'être une superpuissance. Pour utiliser une comparaison biologique, on dirait que l'industrie nord-américaine, c'est le premier poumon des États-Unis, et l'Europe occidentale, c'est le second poumon. Les États-Unis ont décidé en 2000 de prendre le contrôle direct de l'Afrique. C'est comme ça que Bush 2 crée l'Africain, qui recommande moi américain pour faire la mise en Afrique. Obama l'installe en Allemagne. Ça vous dit le mépris dans lequel les Américains sont les peuples africains. Et à partir de 2006, quand ce qui va devenir le printemps arabe, puis le printemps africain, puis la nouvelle politique africaine de France, et aujourd'hui, ce qu'on appelle le super point printemps arabo-africain, le trophée de Carmelage. Depuis 6 mois, quand elle est en train de se déployer les États-Unis, depuis le concert du Maroc qui s'habille de la ville, ce qui est dans le CDR, c'est les deux blocs, le bloc américain et le bloc polonais, qui sont en train de préparer la troisième sociale que les géopolitiques américains prennent soit entre 2050 et 2060. Les enjeux de cette troisième sociale, justement, c'est l'Europe occidentale et c'est l'Afrique. C'est juste des individus qui ont lancé une politique pour arracher. C'est ce qu'on appelle le lion de la ville de la France. C'est une théorie qui est déjà plus belle pour les années 1980 avec le lion de la ville de la ville. Le second qui s'installe à l'autre de la ville de la ville, qui est une représentante de la compagnie de l'État, en plus de la ville de la ville.
D'accord. Luc Michel, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes géopoliticien. Un grand merci à M. Philippe Hugon depuis Paris d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.